France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Geoffroy Jourdain, je suis né en novembre 72 à Épinal et je suis musicien.
Elle lui dit lève-toi, mon Dieu, lève-toi. Va voir dehors, c'est le moment, va voir. Lui, non, pense, c'est la nuit, vraiment, pas le moment, jamais plus. Rien à faire, ça, jamais. Si jamais je fais ça, je m'envole, quoi. Oh oui, je m'envole dehors.
Est-ce que vous avez, Geoffroy Jourdain, dans cette période-là, aussi, un accès aux concerts, des souvenirs de concerts? Parce que vous avez des professeurs qui vous ouvrent des chants, vous avez des frères et sœurs qui vous ouvrent des chants via les vinyles, sans doute, qui ramènent à la maison. Et est-ce qu'il y a aussi l'expérience vraiment du concert, d'interprète? Est-ce que l'interprète devient justement aussi une recherche?
C'est quand même beaucoup le disque. Aussi parce que j'avais un rapport très intime avec le fait d'écouter de la musique, de remettre des passages 10 fois de suite. Enfin, il y a quelque chose dans mon rapport à la musique qui passe par le disque très tôt, ou par les cassettes d'ailleurs. Cela dit, il y avait Musica à Strasbourg, et ce festival de musique contemporaine qui n'existe plus malheureusement, à Metz également, qui était lié, je pense, à Acanthe. Et là, dans mon année, cette dernière année, en fait, 16 ans, 17 ans, enfin, mon année de terminale, j'ai des souvenirs là très, très, très importants. Ouais. La création du visage nuptial sous la direction de Boulez à l'Arsenal de Metz, la nouvelle version, enfin, celle donc de, je sais pas, qui doit être de 88, 89, qui devait être, je pense, mon premier concert de musique contemporaine. Le premier opéra que je suis allé voir, c'était Roméo et Juliette de Dussapin, dans les entrepôts Cronenbourg à Strasbourg, ou à côté de Strasbourg, donc avec le livret d'Olivier Cadiot. Voilà, ça c'était aussi quand même quelque chose de vraiment d'extrêmement important. Et je pense, là carrément un choc, c'est à Metz, à l'opéra en fait, ouais, à l'opéra de Metz, Stockhausen aux manettes pour le voyage de Michael et surtout le chant des adolescents. J'ai mis du temps à m'en remettre. Ouais. Le chant des adolescents, bon alors le compositeur, même si bon, pour moi ça représentait pas grand chose. Aujourd'hui je me dis, ouais, c'était Stockhausen, j'étais à 2 mètres de lui, mais c'est surtout la spatialisation. Bon, déjà, la sensation, encore une fois, acoustique, enfin, d'immersion sonore, mais la sensation qu'il y avait des choses qui m'attiraient depuis mon enfance dans des disques de Bowie, admettons, enfin, en tout cas, oui, pourquoi pas, qui avaient intéressé des gens depuis les années 50 et qu'en fait, qu'il y avait un univers de choses qui allaient me passionner pour les siècles à venir.
Et le clavecin dans tout ça?
Alors j'étais tenace, je crois, mais il était tard. J'étais tenace tout en n'étant pas dupe. Enfin, je savais que les choses se passeraient pas par le clavecin. J'étais très intéressé par le continuo. Pas tant d'ailleurs d'accompagner, mais de comprendre des phénomènes verticaux, enfin harmoniques. Ça m'intéressait beaucoup dans ma relation avec mon prof, ça c'est sûr, parce que j'avais ce rapport, disons, qui n'était pas collectif. Et puis, surtout, je pense que la chose la plus intéressante, mais pareil, c'est avec le recul que je dis ça, là où je suis vraiment très heureux d'avoir fait du clavecin, c'est à cause de l'accord. C'est-à-dire qu'une fois que je suis venu à Paris, je me suis acheté un clavecin, et j'ai passé des heures à l'accorder parce que je savais pas le faire, en fait. Donc j'ai pris tellement de faux chemins que j'ai imprégné, je crois, beaucoup de choses qui sont à la fois, alors, disons, encore une fois, acoustiques, presque mathématiques, enfin physiques, liées à la sensation du battement, enfin, qui sont toutes des choses qui sont extrêmement importantes, disons, par rapport à l'intonation. Mais aussi, je crois que ça m'a aidé à m'intéresser aux échelles, donc évidemment déjà au tempérament non tempéré, mais aussi après, je pense, aux échelles non tempérées et pas nécessairement chromatiques ou diatoniques, enfin, dans d'autres musiques, les musiques extra-européennes.
Ça vous a fait voyager, en fait. Ça vous a permis d'imaginer. Finalement, c'était un champ d'expérience.
Ouais, que je conscientise aujourd'hui. Mais oui, on n'y pense pas. Mais en fait, c'est pas la même chose qu'un piano, quoi. Le clavecin, au bout de 5 jours, ça tient plus. Donc, il faut le réaccorder.
Vous allez prendre un chemin qui va vous amener à Paris. Je crois que vous allez étudier la musicologie. Comment se fait ce trajet? Est-ce que vos parents aussi, pour les convoquer encore une fois, qui voient un garçon qui aimait la batterie et qui passe à la musicologie, au clavecin, est-ce qu'ils vous ont soutenu? Comment les choses se sont passées? Quels sont vos souvenirs de cette transition-là?
Évidemment, de passer de... Qu'est-ce que j'écoutais à cette époque? Disons de Zappa, ça j'écoute encore, à Xenakis ou à Bach. Ça, vers 15-16 ans, ça fait un peu papa-maman, je veux faire du théâtre, je veux monter à Paris. C'était pas gagné, d'autant que il y avait chez moi un rapport aux études supérieures qui était assez, disons, traditionnel et calibré. Donc, j'avais absolument pas la prétention... enfin si c'en est une, mais de devenir interprète. C'est-à-dire que mon rapport à la musique, je pensais qu'il serait, il se vivrait, s'il était professionnel, à travers la musicologie et peut-être la recherche. J'étais fasciné, on n'a pas parlé de ça, mais par l'idée qu'en fait on pouvait, d'ailleurs je le reste, retrouver l'Ariane de Monteverdi un jour. Et par le fait qu'on pouvait aller toucher des manuscrits de Charpentier à la BN, ce qui était encore possible d'ailleurs. Mais voilà, l'idée de la recherche, je pense que c'était ça qui me guidait. Et donc, il était entendu avec mes parents que je pourrais faire des études de musicologie après le bac à Strasbourg, à condition que je fasse du droit en même temps. Et puis il y a une chose vraiment formidable qui s'est passée, c'est que j'ai pas eu mon bac. Et d'ailleurs, en fait... je rends hommage ici à la personne qui n'a pas compté correctement mes points d'option musique, ce qui fait que je n'ai pas été rattrapé parce que ces points n'ont pas été comptés. Et donc, pendant l'année en question, déjà j'ai changé de lycée, je suis allé dans une option musique, dans un autre lycée, et puis je suis devenu très bon élève d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais changé. Et surtout, mon père s'est mis à installer une agence immobilière avec un de mes frères à Paris. En fait, il s'est pris de passion pour Paris et je pense que ça a été un moment de renouveau intellectuel pour lui. Il allait beaucoup aux expositions, il achetait des livres d'art, etc. Et donc, il a été entendu que, évidemment, je n'irai pas à Strasbourg, mais à Paris. Et on a oublié la question du droit.
Hey!
finalement, je suis arrivé à Paris pour faire des études de musicologie et où je partageais mon temps entre les cours et la BN.
Voilà. La Bibliothèque Nationale.
Voilà. Où j'allais chercher des choses, sans trop savoir quoi, mais chercher des choses.
Vous aviez des professeurs en musicologie, Geoffroy Jourdain, qui ont aussi attisé un peu cette passion naissante pour le manuscrit, pour la recherche. D'ethnomusicologie aussi, d'un autre côté.
Non, mais surtout, voilà, honnêtement, il y a une personne qui, et je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir été particulièrement influencée, voire vraiment transformée par cette personne, c'est Gilles Léoto.
C'est un disciple de Lévi-Strauss.
Oui, Bernard Lorta-Jacob, c'est un représentant de cette génération des personnes qui sont nées dans les années 30-40 et qui ont été, avec Simra Aram, par exemple, des field recorders, des gens qui sont allés sur le terrain, et qui ont fait du terrain, comme on dit, mais de cette école française qui, j'espère que je dis pas de bêtises, ont osé s'intéresser au phénomène musical, contrairement à toute une école de l'ethnomusicologie américaine qui, parfois, interdit un peu... l'idée de considérer la musique comme un phénomène en soi. En tout cas, voilà, Gilles Léoto, c'est quelqu'un dont, évidemment, très rapidement, on se débrouillait pour aller suivre les autres cours. Pendant 3 ans, en fait, on assistait aux cours d'ethnomusicologie, d'acoustique et de physiologie de la voix.
Il y a son anthologie, là, des chants du monde, ouais, qui est extraordinaire. Ça, c'est par exemple... un choc pour vous?
Ça
fait partie des...
Je pense que de tous les disques qui sont là, vous pouvez tous les enlever, mais je garde celui-là. Avec des extraits de pratiques vocales du monde entier, dont certains enregistrements qui, évidemment, après permettent de suivre des pistes. Ça a été, évidemment, pour moi, déterminant, notamment dans le fait de me mettre à écouter de la musique de Pygmée. Surtout ça, ouais. Voilà. Et donc, de là, me connecter assez rapidement aussi bien à Ligeti qu'à Berlioz, dont j'ai fini par comprendre qu'ils avaient été très influencés par ces musiques.
France Musique, les grands entretiens de Geoffroy Jourdain.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces musiques-là particulièrement? C'est quoi? C'est le rythme, le tempérament, le...
Je parle aujourd'hui, en 2020, parce que je pense qu'à l'époque, c'est des choses auxquelles j'étais moins sensible, mais parce que depuis, j'ai fait aussi du chemin avec les musiques de tradition orale. C'est évidemment la polyphonie intégrée à une pensée rythmique. Vous savez, il y a par exemple ces ensembles, moi j'étais fasciné, enfin je le reste hein, évidemment, ces ensembles de trompes où chacun n'a qu'une note, mais en réalité, on entend un foisonnement polyphonique et mélodique. Mais pourtant, chacun ne joue qu'une note. Donc, pour que ça recrée une mélodie, il faut bien qu'il y ait en plus une conscience de la petite valeur rythmique et puis d'une grande mécanique polyphonique. Ça, c'était une chose qui me fascinait absolument. L'autre chose, c'était quand même aussi le fait que ça passe pas à travers l'écriture. Oui, ça, c'est très net. Vous savez, Simra Aram a mis 4 ans à comprendre, et encore avec des outils techniques modernes, comment ces principes isorhythmiques pouvaient fonctionner. Je me souviens de choses, oui, qui m'avaient fasciné. Un enfant, chez des pygmées Aka, qui se joint au groupe pour se joindre à la polyphonie. Si ça ne convient pas à ce qu'il fait, on le fait sortir du groupe. Mais jamais on va lui dire, ta troisième double croche n'était pas au bon endroit. Et donc, il sort du groupe, il écoute et il revient, un jour. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui me fascinait. Et après, aujourd'hui, de ce qui pourrait me fasciner encore plus dans, notamment cette musique, mais c'est le fait que elle est faite pour à peu près tous les moments de la vie, sauf pour le concert. C'est-à-dire que c'est l'inverse de notre rapport à la musique, qui, disons, en Europe aujourd'hui, est quasi exclusivement soit lié à la sphère intime, et encore, disons celle de la berceuse, soit liée au concert. Je parle de la musique live. Après, éventuellement, et encore, je méconnais un peu les pratiques cultuelles de la musique aujourd'hui, mais enfin, bon, éventuellement dans le cadre des cultes, mais sinon, on ne fait pas de musique pour aller à la chasse, on ne fait pas de musique pour se donner du courage, on ne fait pas de musique pour des rites d'initiation, pour des passages importants dans la vie, on ne fait pas de musique de métier, on ne fait pas de musique dans la rue, il n'y a plus de chant de corporation, enfin voilà. Ça, c'était quelque chose qui, je crois, aussi me fascinait. Cette idée qu'elle pouvait être là à chaque instant et avoir à chaque fois une fonction.
Ora 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 ora
voit aussi la multiplicité de vos intérêts, parce qu'il y a cet intérêt pour les musiques de tradition orale, et il y a aussi cette sensibilité à la partition écrite, à aller les retrouver, à aller les lire. Et là, c'est tout autre chose, c'est un autre champ qui s'ouvre. Ces années que vous évoquiez très rapidement à la Bibliothèque nationale, c'est quel manuscrit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous y cherchiez? Qu'est-ce que vous y avez trouvé?
Alors, je pense que je cherchais en fait à la fois à lire du répertoire. Voilà, il y avait tout. Enfin, là, je parle pas de manuscrits, je parle vraiment de choses éditées. Aussi parce que le cœur des petits chanteurs, en fait, au moment où je suis arrivé à Paris, le chef en est parti et on a repris la direction, ce qui fait que je rentrais tous les week-ends à Épinal pour le diriger. Donc, j'avais une soif de répertoire polyphonique et la BN était un endroit fabuleux pour ça. Et puis aussi cette idée un peu romantique, je dirais, bon, à la fois d'être en contact avec les partitions anciennes, et puis cette idée de la partition qui n'a jamais été jouée ou jamais touchée. Et franchement, ça m'est beaucoup arrivé à la BN à l'époque. Notamment, j'ai fait une maîtrise sur Antonio Lotti, qui était un compositeur, on parlera peut-être de Venise, qui m'a fasciné très tôt. Et j'ai des souvenirs très précis, parce que notamment avec une partition que j'ai intégralement recopiée, de l'encre qui, lorsque j'ouvrais les pages, faisait... Et puis... Vous voyez, l'encre encore humide avait touché la page d'après, et depuis, personne ne les avait rouvertes. Ce qui fait qu'il y avait un peu de poussière d'encre qui partait. Bon, bref. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'adorais cet endroit. Vraiment, le département musique de la BNF, qui est toujours au même endroit, au Square Louvois, il y a un truc très mystérieux là-bas. Il y a une odeur de café qui passe par les aérations. Et puis, il y avait... Je sais pas, il y avait Christy à une table, il y avait Dominique Vis à l'autre. Enfin, j'étais fasciné. Pour moi, c'était des stars dont j'écoutais les disques en rentrant. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez important pour moi qui fait que ça s'est, disons, un peu organisé ce rapport à cette recherche de partition. C'est qu'à force d'y traîner et de poser plein de questions à des gens qui assuraient la permanence, vous savez, enfin, pour les lecteurs, eh bien, j'ai rencontré, quelqu'un avec qui j'avais une belle complicité qui s'appelle Cécile Grand, qui est au CNSM maintenant, je crois, et qui donc s'occupait du RISM, Répertoire International des Sources Musicales, je crois, et qui, à force de me voir traîner là-bas, m'a proposé mon premier job d'étudiant, qui était de cataloguer les manuscrits. À l'époque, on était à la lettre C. Voilà, j'ai fait un peu de C, et notamment tout Charpentier. Et puis un peu de D. J'ai fait Durante aussi, je me souviens. Voilà. Alors, ce qu'il y avait à faire, c'était... vérifier, je dis des souvenirs en vrac, mais enfin, le filigrane, essayer de dater le papier. Voilà, c'était tout, absolument tout, sauf de la musique. Et ça a été déterminant. Déjà parce que, enfin, honnêtement, je le dis de façon un peu ironique, mais j'ai adoré, évidemment. Mais on s'occupait des reliures, des numéros de catalogue. Il y avait un tout petit peu de musique qui consistait, et encore, moi, j'avais pas le droit parce que j'avais pas accès aux ordinateurs, mais d'entrer l'incipit, les premières notes musicales. Mais pour le reste, en fait, j'ai compris assez vite qu'il y avait un gap infranchissable entre mon désir de musique et la musicologie.
Est-ce que c'est à cette époque où vous êtes beaucoup à la Bibliothèque nationale que vous allez aussi au Centre de musique baroque de Versailles, qui écoutez les Christie, les Dominique Vis, etc. Est-ce que ça fait partie de ces endroits aussi où on va chercher des choses, où on se passionne pour un répertoire, vous qui avez fait tout Charpentier?
Alors au CMBV, j'allais, je me souviens, d'abord le mardi, puis ensuite ça a été le jeudi, il y avait les auditions de la maîtrise. Je suis allé très très souvent passer mes après-midi à Versailles pour aller à l'audition de 17h de la maîtrise, qui à l'époque était dirigée par Michel-Marc Gervais, qui ensuite était un de mes professeurs. Mais le fait d'aller au CMBV, j'y ai pas fait beaucoup de recherches, mais j'y ai passé beaucoup de temps dans le bureau de Jean Lyonnais.
Ah oui.
Et ça, c'est plus tard. Jean Lyonnais, je crois, m'aimait bien. Et en fait, on passait des après-midi à discuter, il fumait ses gitanes et on discutait de notre passion commune pour la musique romaine. Parce que c'est le CMBV, donc qui est plutôt un lieu de musique française, mais j'avoue que aussi dans ma pratique du clavecin, dans, voilà, j'étais déjà passionné par le 17e italien. Et le point de départ de tout ça, je crois que c'est un disque de Christy, la Cecchita, ses oratorios attribués à Luigi Rossi, les oratorios pour la Semaine Sainte. J'étais vraiment fasciné par cette musique, notamment le dernier chœur de la dernière plage. À l'époque, il n'y avait pas d'index, donc je faisais brrrr pour aller jusqu'à ce chœur final où Agnès Mellon était fantastique. Et c'est ça qui fait que j'ai cherché à trouver cette musique et que j'ai rencontré Jean Lyonnais et qu'il m'a signé un blanc-seing pour aller à la Bibliothèque Vaticane. J'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, je dormais dans une chambre à l'Armée du Salut et tous les matins j'allais à la Bibliothèque Vaticane recopier de la musique. Puis l'après-midi je visitais Rome.
Vous êtes d'un millésime, Geoffroy Jourdain, qui a fait encore son service militaire.
Contre toute attente, parce que j'ai passé mon enfance à rire de ça, et à être convaincu, je sais pas, par ma petite taille, par plein de choses, que jamais je ferais mon service militaire. Ça me semblait assez facile de pas le faire. Et donc, voilà, il y a une médecin militaire a pris le tampon apte, alors que vraiment, je disais, j'ai encore plein d'arguments, et a décidé que je ferais mon service militaire. Et en fait, pareil, enfin, c'est quelque chose qui s'est avéré être vraiment positif. Je vous disais que je commençais à avoir des grands doutes sur ce que je voulais faire, et notamment sur mon aptitude à avoir l'esprit scientifique nécessaire à la musicologie. De ce fait, après ma maîtrise, j'ai devancé mon service puisqu'il fallait que je le fasse. Ça m'a permis de savoir si je voulais aller vers le DEA, etc. Et puis, j'ai donc passé l'audition du chœur de l'armée française. Et là, c'était extraordinaire parce qu'en fait, j'étais pas du tout chanteur. J'ai eu cette chance d'avoir vraiment une vraie laryngite. Et je suis allé passer l'audition en me disant, j'ai une chance là. J'ai fait comme les chanteurs qui se tiennent, vous savez, dans l'église du piano. J'ai chanté Mazzetto. Avec une crève absolue, en faisant croire, parce que je faisais que je savais chanter, mais on n'entendait rien. Enfin, et ils m'ont pris. À ce moment-là, grâce d'ailleurs à Béatrice Trichet, qui était une de mes amies de fac et qui travaille à Radio France aujourd'hui, elle m'a appris qu'il y avait une classe de direction qui ouvrait au CNR de Paris, avec Patrick Marcot, et je me suis présenté à cette classe. J'étais complètement autodidacte, mais par défaut. Enfin, j'étais pas glorieux d'être autodidacte en direction. Et je voulais vraiment voir comment ça se passait, et il m'a pris. Voilà. Donc, enfin, tout a changé à ce moment-là, puisque c'était une classe de direction de chœur avec des cours d'analyse, de nouveau, des cours de chant, des cours de physiologie de la voix, etc., etc. Au même moment, il y avait le Centre d'art polyphonique qui était très dynamique à Paris et qui proposait des stages, des compléments de formation. Et voilà, et en un an, pendant mon service militaire, je me suis finalement, à ce moment-là, définitivement orienté vers la direction.
Les cris de Paris, ici dans le Credo en mi mineur de Vivaldi, pour refermer le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Geoffroy Jourdain. Réalisation Christine Amado, prise de son Loïc Duros, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.